Chapitre 13, la baronne Schwartz. Michel eut 300 francs d'appointement par mois pour commencer et une chambre à l'hôtel. On habitait maintenant le second hôtel, déjà un palais. En thèse générale, M. Schwartz professait l'opinion que les jeunes gens doivent être tenus en bride et sevrés d'argent, car l'argent, c'est le grand danger de Paris. Mais Michel était le dauphin de sa royauté industrielle. Il se mirait en Michel. Il lui eût semblé malséant que Michel ne fît pas quelque gentille folie. Michel fit des folies, parbleu. Tout le monde l'y aida. Au bout de 2 mois, il avait des dettes. C'était sa 16e année, le printemps d'autrefois. Michel, notre héros, fut un instant célèbre dans le tout Paris. Il eut de bonnes fortunes posantes et un duel, je crois, ou 2 duels, pour de bons motifs. S'il avait eu goût à la chose, les chroniqueurs du monde élégant l'auraient rendu célèbre parmi les modistes. Monsieur Schwartz était bien content de lui. La gloire de Michel rejaillissait sur sa maison, qui augmentait loyalement ses appointements. Monsieur Lecoq fit le reste. Nous connaissons Monsieur Lecoq de longue date et nous gardons conscience de n'avoir jamais prononcé son nom sans l'entourer du respect qu'il mérite. On ne saurait trop connaître les gens comme Monsieur Lecoq. Ils ressemblent au latin qu'on ne sait jamais assez, même après 8 ans de collège. Monsieur Lecoq avait rempli en sa vie beaucoup de fonctions honorables. Nous l'avons rencontré jadis sous la brillante espèce du commis voyageur. Il était jeune alors. En voyageant pour le commerce, on fait parfois son usage diplomatique, et ce n'est pas le premier venu qui aurait pu placer, comme lui, les fameuses caisses à défense et à secret de la maison Berthier et compagnie. Son âge mûr tenait toutes les promesses de son début. Il ne voyageait plus, sinon dans Paris, centre des civilisations. Il avait sa maison à lui. C'était un personnage bien plus important que M. Schwartz lui-même. Le gibier s'en va de partout. Paris seul garde un riche stock de bonnes bêtes à tirer, à court ou à tendre. M. Lecoq avait, sans bourse déliée, la ferme des chasses dans Paris. Ce n'était pas un usurier, fi donc. Il ne tenait pas une fabrique de mariage, non. Il n'avait pas cette industrie mal famée qui s'appelle un bureau de placement. Il ne faisait pas l'exportation, il ne vendait point de jeunes soldats, il ne favorisait pas l'émigration allemande, il ne se livrait pas même à l'élève des ténors. Non, du moins, aucune de ces jolies choses n'était l'objet particulier de sa patente. Que faisait-il donc? Il gérait une agence. Qu'est-ce qu'une agence? Je suppose qu'il y a des agences qui se peuvent définir en y mettant le soin et le temps. On faisait ceci ou cela dans telle agence. Chez M. Lecoq, on faisait tout. Les gens bien informés, cependant, prétendaient que ce tout n'était qu'un prétexte pour couvrir une singulière industrie qui allait florissant sous le règne de Louis-Philippe, la petite police. Il y a tant de curieux. La petite police qui fut pratiquée à cette époque par un illustre coquin converti et fait ermite était à la préfecture ce que sont les tripots clandestins aux maisons de jeu autorisées. Elle attirait à la fois les timides et les trop hardis. Les gens mieux informés encore allaient plus loin et disaient que ce commerce de petite police était lui-même un prétexte pour cacher... Mais où descendrons-nous de prétexte en prétexte? Le fait est que M. Lecoq avait de très belles relations et qu'il gagnait de l'argent tant qu'il voulait. Il prêtait en gentleman, refusant billets et lettres de change. Michel lui dut jusqu'à 10 000 écus que M. Schwartz paya sans broncher. Il cimentait, çà et là, quelque union entre personnes comme il faut. Il retrouvait les objets perdus sans magnétisme. 4 pages de prospectus ne suffisaient pas à nombrer ses talents. Monsieur Lecoq était notoirement un sorcier. Le baron Schwartz ne s'avouait pas encore qu'il voulait employer la sorcellerie pour pénétrer le secret de sa femme. Ce sont même généralement ces choses-là qu'on fait le mieux. Monsieur Lecoq était reçu chez Monsieur Schwartz, qui l'accueillait fort bien. Il y avait entre eux je ne sais quel petit mystère qui n'étonnait personne, car tout million militant a besoin de son Lecoq. La chose singulière, c'est que Madame la baronne Schwartz aussi semblait prendre goût à la sorcellerie. Un matin, Monsieur Schwartz s'éveilla de mauvaise humeur. Cela n'arrivait pas souvent. C'était un homme heureux et d'excellent caractère. Il y avait à peu près un an que Michel était sorti de l'école et sa faveur touchait à son apogée. Il menait de front, en effet, les plaisirs et les affaires. C'était sans contredit le plus brillant de ces sous-lieutenants des finances qui ont dans la poche de leur paletot un bâton de maréchal. La première personne qui vint voir M. Schwartz ce matin-là lui apprit en riant que Mademoiselle Mirabel était éprise follement de Michel qui lui tenait rigueur. M. le baron fut triste. Ce n'était pas qu'il aimât Mademoiselle Mirabel, il n'aimait que sa femme. C'était qu'il passait la quarantaine et qu'après 40 ans, on ne rit plus si aisément à ses comédies. Il y avait en outre des rigueurs de Michel envers Mademoiselle Mirabel, et Mirabel lui rendait des points. Humiliation double. Au déjeuner, Madame la baronne lui parut si belle qu'il eut un coup au cœur. La baronne, ce jour-là, ressemblait à une femme qui s'éveille d'un long repos d'indifférence. Il y avait des années que le baron ne lui avait vu ce sourire vivant et divin. Ou plutôt, l'avait-il jamais vu? Il avait beau chercher, il ne s'en souvenait pas. Parfois, ces transfigurations sont dans l'œil même de celui qui regarde. On voit mieux tout à coup, ou du moins on voit autrement. Mais l'humeur de M. Schwartz teignait ce matin en noir tout ce qui n'était pas sa femme. Pourquoi ces rayons alors qui faisaient une auréole à la beauté de sa femme? Elle parlait peu. Edmé déjeunait auprès de Blanche, le babil des deux enfants lui donnait des sourires distraits. Je ne sais par quelle bizarre association d'idées M. Schwartz, ce matin, souhaita passionnément de la voir un jour jalouse. Je sais encore moins, par suite de quel singulier travail mental, l'injure qui lui venait de cette jolie Mademoiselle Mirabel le frappa du côté de sa femme. Ce sont des nuances difficiles à exprimer. Sa tristesse redoubla par rapport à la défection de Mademoiselle Mirabel à cause de sa femme. On prononça le nom de Michel, par hasard, les beaux yeux de la baronne brillèrent. Par hasard aussi, c'était vraisemblable, car Madame la baronne n'avait jamais pu prendre au sérieux la haute fortune de notre héros. Elle laissait faire, mais c'était tout. Pourtant, Monsieur Schwartz ferma aujourd'hui la porte de son cabinet sous prétexte de gros calculs. Il était désolé sans savoir pourquoi. Il avait bel et bien le spleen, comme s'il se fût appelé Black au lieu de Schwartz. Il n'y avait point de consigne pour Michel. Michel vint. Monsieur Schwartz eut soudain l'idée de lui donner une mission pour New York. Nous affirmons que Mademoiselle Mirabel n'était pour rien là-dedans. Mais le lendemain, il n'y paraissait plus. Monsieur Schwartz avait besoin de son Michel. N'allons pas si vite. Avant le lendemain, il y eut la soirée, et nous ne pouvons perdre cette occasion de glisser un premier regard au fond du cœur de cette belle Madame Schwartz. Au déjeuner, ses yeux avaient brillé, cela est certain. L'après-midi, elle mena Blanche au bois et fut d'une gaieté charmante. Elle regardait Blanche avec une sorte de ravissement, et Blanche, bien aimée qu'elle savait être, s'étonnait des chères caresses de ce regard. Le temps était couvert, mais sur le visage de Madame Schwartz, il y avait des rayons comme par le grand soleil. Au dîner, elle devint rêveuse. Le soir, la trouva triste. Elle se retira dans sa chambre de bonne heure. « L'estomac, » dit Monsieur Schwartz. La prose vulgaire a ses rêves comme la poésie. Et ne pensez-vous pas qu'un homme, parlant d'estomac à propos de ses adorables mélancolies, avait raison au fond d'être jaloux? En rentrant chez elle, Madame Schwartz fit tout de suite sa toilette de nuit et donna la permission de 10 heures à Madame Sicard, sa camériste, qui mit son chapeau de satin mauve, sa robe noire et son châle bleu pour rendre visite à sa marraine. Souvent, la marraine de Madame Sicard porte avec fierté le vaillant uniforme de notre armée, mais n'approfondissons pas ces détails. Madame Schwartz, restée seule, s'assit au coin du feu, dans sa chambre à coucher, et prit un livre. Elle ne l'ouvrit point. Pour occuper les heures de sa solitude, elle l'avait assez de sa propre pensée. C'était un livre aussi que le visage d'une femme, un livre clos parfois, quand elle devine l'œil perçant qui veut lire son âme, un livre ouvert à ces moments où nulle défiance ne la garde. Je parle, bien entendu, de celles qui ont quelque chose à cacher, c'est la majorité immense, car dans le monde où nous sommes, le bien a besoin souvent de se cacher, comme le mal. Le visage de Madame Schwartz n'était pas un livre fermé. Nul ne pouvait en effet épier ici les indiscrétions de sa physionomie. Elle était sûre de cela. Trois portes la séparaient du corridor et d'épais rideaux tombaient au-devant de ses croisées. Avait-elle un masque? Le masque pouvait tomber. Elle n'avait pas de masque, non. Le regard doux et distrait de ses grands yeux n'avait point changé. C'était toujours la même tête de Madone, admirablement belle et pensive. Qui eût osé cependant affirmer que Madame Schwartz n'avait rien à cacher? Sa retraite prenait pour motif la fatigue. Nulle trace de fatigue ne se montrait parmi la superbe pâleur de ses traits. Elle n'était pas malade. Aucun travail, aucun soin ne l'attirait ici. « L'estomac, disait le positif Monsieur Schwartz. Madame Schwartz ne savait pas où était son estomac. Il est un motif plus précieux encore, le caprice. Mais Madame Schwartz, nous le verrons bien, était au-dessus du caprice. Il y avait un peu trop d'or dans l'hôtel de Monsieur le Baron. Dès le temps de Midas, l'opulence tombait volontiers dans ses excès. L'or s'impose à ses fervents et la fièvre des spéculateurs voit jaune, dirait-on, comme la colère voit rouge. Chez Madame Schwartz, rien ne trahissait la dévotion à l'or. La richesse ici ne s'affirmait point brutalement. Elle offrait aux yeux, mais dans une mesure heureuse et sobre, les choses de goût et d'art. Au marché même, l'or, toujours maître et sans cesse vaincu, n'a pas le prix de ses splendides simplicités. C'était le réduit d'une grande dame. Nous n'avons garde de décrire en détail l'ameublement de ce nid, somptueux à la façon des beautés pâles, où la galanterie de Monsieur le Baron s'était pliée, non sans protester, aux attraits d'un esprit supérieur. Rien n'y éclatait, nul rayon insolent ni troublant l'harmonie de l'ensemble. Nous parlerons seulement d'un petit meuble de boule, véritable palais en miniature, dont l'ébène, l'écaille, l'onyx et les pierres fines étaient les matériaux. Madame Schwartz avait acheté elle-même ce secrétaire, dont M. Schwartz connaissait à fond toutes les gentilles attrapes et tous les rusés secrets, sauf un mot. Et nous disions bien que cette belle baronne avait quelque chose à cacher, puisque son mari, patient, tenace, exaspéré par la longue recherche, et sachant mettre de côté toute vaine délicatesse au besoin, quand il s'agissait de satisfaire une maîtresse fantaisie, essayant inutilement depuis des années d'ouvrir le tiroir du milieu, un tiroir caisse entouré de malachite dans un idéal bouquet de pensées que formaient 16 améthystes mêlés à 6 topazes. De ce tiroir, le triste monsieur Schwartz n'avait jamais pu entrevoir la clé. Il y avait plus d'une heure déjà que madame Schwartz s'était retirée dans son appartement. Son livre restait fermé, ses yeux demi-clos suivaient avec distraction les jeux de la flamme dans l'âtre. Son visage, à proprement parler, n'exprimait ni inquiétude ni peine, mais sa méditation semblait à chaque instant l'absorber davantage. « La comtesse Corona, murmura-t-elle une fois, je ne sais pas si je hais cette femme ou si je l'aime. » Machinalement et souvent, elle relevait les yeux vers la pendule pour suivre la marche de l'aiguille. Attendait-elle? Et qui pouvait-elle attendre en ce lieu? Elle était belle, plus belle qu'à l'ordinaire, belle d'une émotion latente et profonde. Ce nom de femme prononcé, le nom de la comtesse Corona, trahissait-il le vrai sujet de sa rêverie? Elle tressaillit à un bruit de pas qui s'étouffait sur le tapis de la chambre voisine. Deux coups discrets furent frappés à sa porte, et l'on entra sans attendre sa réponse. Ce fut M. Domergue qui entra. Il se tint debout, à quelques pieds du seuil, dans une attitude calme et respectueuse. Monsieur Domergue pouvait jouer le romanesque rôle de confident, mais il n'en avait pas la tournure. Vous venez tard, dit madame Schwartz. Madame Sicard est restée 45 minutes à sa toilette, répliqua Domergue. La baronne eut un demi-sourire et demanda où est-elle? À Chaillot, répliqua Domergue. Madame Sicard avait plusieurs marraines, à moins que la marraine de madame Sicard ne demeurât en divers quartiers. Quand elle allait voir sa marraine de Chaillot, la permission de 10 heures se prolongeait jusqu'au lendemain matin. La baronne fit signe à Domergue d'approcher. « Parlez-moi de ce mendiant, dit-elle, cela m'intéresse comme un conte de fées. » « Ce n'est pas un mendiant, répondit Domergue, il travaille pour gagner sa vie. Quand je lui ai offert l'aumône de madame, il a refusé. Il est fier, ce malheureux-là, il a dit « Ma commission est payée. » « Je voudrais le voir, » murmura la baronne. « Si monsieur achète le château de Bois-Renault, » répliqua Domergue, « madame ne prendra pas souvent la voiture du plat d'étain. Mais une fois n'est pas coutume, et quand on prend la voiture du plat d'étain, on voit trois pattes. »« Trois pattes, » répéta la baronne. « J'irai visiter demain ce château de Bois-Renault. » Quant à cela, reprit Domergue, toujours grave, comme son uniforme sur les trois pattes, il n'y en a que deux de vrais. L'autre est une brouette, et l'animal est, comme qui dirait, un attelage complet, cheval et voiture. Et comment a-t-il pu venir jusqu'ici, infirme comme il est? Ah, il a un équipage, un panier et un chien. C'est rusé, ces êtres-là. Seulement, il ne va pas si vite que le chemin de fer. Domergue ne rit pas, mais sa physionomie exprima une vive satisfaction causée par la conscience qu'il avait d'avoir édité un bon mot. Madame Schwartz réfléchissait. « Vous n'avez rien pu savoir ? » demanda-t-elle. « Rien, » repartit Domergue. « Il dit qu'un voyageur lui a donné la lettre dans la cour du plat d'étain. C'est tout. Il ne connaît pas le voyageur. » Il y eut un silence encore. Puis madame Schwartz reprit. « C'est bien. Faites ce que je vous ai dit. » Domergue se retira aussitôt. Restée seule, madame Schwartz prit dans son sein une lettre qu'elle tint entre ses doigts avant de l'ouvrir. C'était un pli de papier banal, papier de pauvre. Il n'y avait point d'enveloppe, et il portait un cachet de cire grossière, frappé d'une empreinte fruste, où l'on reconnaissait le gras profil que le roi Louis XVIII mettait sur les pièces de 10 sous. Une personne qui n'ait reçu des lettres anonymes ainsi fermées. Madame Schwartz considéra longuement et attentivement l'écriture de la lettre qui était courante et ne semblait point contrefaite. Elle ouvrit enfin le pli et parcourut la lettre comme on fait d'une chose déjà lue. Mais la lettre achevée, elle la recommença 1 fois, 10 fois. On eût dit qu'un monde surgissait pour elle de cette feuille presque blanche, au centre de laquelle 3 lignes laconiques se serraient étroitement et n'étaient suivies d'aucune signature. Tout un monde, tout un passé, lointain déjà et si différent du présent qu'il semblait le mensonge d'un poème. Il est des gens qui vivent 2 existences successives dont l'une ne fait si bien contraste avec l'autre qu'ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes. C'est, dans toute la rigueur du terme, la métempsychose. L'âme a changé de maison. Madame Schwartz replia la lettre avant d'avoir prononcé une parole. Elle poussa un soupir profond et se leva. Dans cette nouvelle posture, son regard rencontra sa propre image dans la glace de Venise qui s'encadrait magnifiquement au-dessus de la cheminée. Elle sourit avec une sorte d'incrédulité. « Ce sont 2 rêves, » murmura-t-elle. Mais les lignes de son visage, correctes et si pures qu'elles semblaient taillées dans le marbre, subirent un retrait soudain. La glace de Venise le lui dit. Elle se redressa et ne tourna le dos qu'après avoir envoyé au miroir un sourire qui la faisait belle et calme, comme toujours. Elle marcha vers le secrétaire et l'ouvrit. Une clé ciselée était dans sa main, la même clé que nous avons vue naguère au château de Bois-Renault entre les mains du baron Schwartz et à laquelle adhérait cet atome de cire. Madame Schwartz l'introduisit dans la serrure du tiroir central, au cœur même du bouquet de pensées fait avec des améthystes et des topazes. Avant d'ouvrir, cependant, Madame Schwartz hésita et regarda autour d'elle. ce mouvement appartient aux consciences troublées. Madame Schwartz traversa la chambre d'un pas tranquille et poussa le verrou de la porte d'entrée. Puis le tiroir fut enfin ouvert. Madame Schwartz y déposa la lettre anonyme. Sa main resta tout au fond du tiroir, comme si elle eût voulu y prendre quelque chose en échange de la lettre. Mais un léger bruit se fit dans la chambre voisine. Madame Schwartz avait eu raison de pousser le verrou. On tourna vivement et sans frapper le bouton de la porte. « Mère !» prononça la douce voix de Blanche.